l'Outaouais maintenant. Voici Michel Lapointe.
On parle avec Marie-Claude Lortie, rédactrice en chef du quotidien Le Droit. Salut Marie-Claude.
Salut Michel.
Écoute, ça brasse chez le Rouge et Noir.
Alors, c'est leur entraîneur, Charles Eager, qui a tenu apparemment des propos francophobes, donc des propos qui étaient absolument inappropriés auprès des joueurs francophones. Et la direction de l'équipe de football a décidé de lui dire que ses services n'étaient plus nécessaires. Alors, c'est quand même incroyable qu'une équipe de football agisse de façon quand même si rapide et directe pour vraiment prendre le taureau par les cornes. Et alors qu'on entend tellement d'autres histoires terribles au sujet de traitements pas géniaux au sujet des francophones, puis qu'il y a pas grand-chose qui se fait.
Écoute, et dans le sport professionnel, comme tu le mentionnes, c'est rare qu'on voit ça. Il y avait une tradition à l'époque ici, à un moment donné, les Rough Riders d'Ottawa, où ils avaient complètement délaissé le public francophone. Mais cette organisation-là du Rouge et Noir semble avoir un énorme respect pour la communauté francophone. Puis moi, je dis, oui, bravo à cette organisation sportive-là. On n'a pas d'affaire à subir ça.
Ben exactement. Puis je trouve que c'est exactement ça. C'est une marque de respect parce qu'ils savent très bien qu'il y a quand même beaucoup de supporters qui sont des francophones. Et puis il faut traiter tout le monde de la même façon. Puis ce que je trouve plate dans tous les débats qu'on a vus récemment, c'est que c'est toujours la même chose, c'est qu'on traite, on parle de discrimination, on accuse souvent les francophones, même les Québécois, d'en faire, mais on considère pas que celle envers la langue est comme aussi importante que les autres. C'est comme si la discrimination en vertu de la race ou en vertu de la religion, ça c'est vraiment pris au sérieux et tant mieux. Mais celle envers la langue, c'est comme moins grave, on dirait. Mais c'est comme si quand c'est la langue, puis quand c'est le Québec, puis tout ça, ben tu sais, c'est bon, je pense qu'il y a quand même des gens qui considèrent que c'est pas correct puis que c'est grave, mais c'est jamais pris autant au sérieux que les autres formes de discrimination. Alors que c'est une façon finalement de ramener les gens vers le bas, de les mépriser en les traitant, en faisant référence à leur langue. Puis c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre identité. Fait qu'on peut pas c'est sûr que ça nous touche profondément puis de la même façon que ça touche profondément les gens qui sont victimes de discrimination pour d'autres facteurs sur lesquels qui touchent vraiment à leur identité. Fait que c'est grave, c'est très grave. Puis je trouve ça bien que l'équipe de football ait reconnu ça. Je trouve ça très adulte et je trouve ça très juste.
Surtout dans une région comme la nôtre où on côtoie les deux cultures en plus. Bon, parlons de le monde de l'éducation, Marie-Claude. C'est pas facile en éducation, selon une étude là, du côté de l'Ontario.
Oui, c'est une étude qui a été menée par le Conseil de recherche en sciences humaines et auprès de 4000 membres du syndicat canadien de la fonction publique qui travaillent dans les écoles en Ontario. Mais c'est pas juste les enseignants, là, c'est tout le personnel. Et ça peut être autant des gens qui sont avec la petite enfance que le secondaire, puis les employés d'entretien, etc., etc. Et c'est fou de voir que c'est 9 personnes sur 10 qui dit qu'il a été victime de propos désobligeants, de gestes déplacés, même de trucs physiques qui ont été faits, puis qui ont des conséquences quand même assez déroutantes, assez graves finalement psychologiquement. C'est, dit-on, le syndicat qui représente tous ces travailleurs-là dit que c'est évidemment le résultat du manque de ressources qui fait que les jeunes sont pas aussi encadrés qu'ils devraient l'être. Et je trouve ça vraiment intéressant comme de mettre le doigt sur ce problème-là de cette façon-là, parce qu'effectivement, il y a eu tellement de coupes dans les écoles. On a tellement ramené le personnel des écoles, mais des deux côtés de la frontière, au strict minimum, que c'est sûr qu'à un moment donné, il fallait qu'on commence à voir des conséquences de ça. Là. C'est pas on peut pas couper le personnel, oui, puis s'imaginer que ça va rien faire, là, puis que dans le fond, tout ça, c'était juste de la crème fouettée. C'est tous ces gens-là n'étaient pas nécessaires. Mais non, ils étaient nécessaires, comme tous les autres thérapeutes qui aident les jeunes qui ont plus de difficultés sont nécessaires. Puis il y a plein de problèmes qui découlent de ça. Donc, on va en voir. Puis ça, c'en est un, mais il va en avoir d'autres qui vont découler de ça, sur les conséquences sur l'éducation des jeunes, comment ils s'en sortent. Tous ces jeunes qui n'auront pas été pris, qui n'auront pas été encadrés autant qu'ils le devraient, puis qui vont avoir de la difficulté à prendre leur place dans la société, à avoir tous les outils dont ils auraient eu besoin pour le travail, etc. C'est c'est des conséquences qu'on voit pas le lendemain matin, mais à un moment donné, ça finit par se faire sentir. Puis là, on va réaliser que, ouais, peut-être que dans le fond, il faudrait tout réencadrer ce monde-là d'une bonne façon pour prévenir les problèmes sociaux dont on va payer le prix dans les années à venir.
Mais en même temps, on parle de sous-financement. Et je comprends très bien ce que tu dis. Je comprends ce que l'étude nous dit. Mais il y a une partie aussi, Marie-Claude, que ça part pas de la maison, ça. L'éducation, l'intimidation, l'harcèlement, enseigner ça à la maison, ça part pas de là non plus.
Ben oui, ça part de là. C'est sûr que la maison a une partie du travail à faire. Là, je veux pas délester complètement les parents de leur travail, mais en même temps, les écoles ont aussi, tu sais, on le sait, là, des ados, des jeunes, c'est tough, là. Ça prend du monde pour s'en occuper. Puis surtout si c'est des gens qui viennent des jeunes qui viennent d'un milieu où ils ont plus de difficultés, tu sais. C'est sûr qu'à la maison, là, si on a une famille avec une famille stable, équilibrée, puis tout ça, là, mais c'est sûr que ces gens-là peuvent faire de la discipline puis montrer ça à leurs enfants. Mais on le sait tous que dans la société, là, c'est pas toujours des histoires super faciles. Puis il y a des familles où est-ce que c'est des familles monoparentales, des familles qui ont des problèmes de pauvreté, qui ont toutes sortes d'autres problèmes. Puis dans ce temps-là, c'est difficile à un moment donné de tout faire la job. Puis le rôle de la société via l'école, c'est d'aider les parents aussi. T'sais, je veux pas complètement mettre les parents de côté, mais la société a un rôle à jouer. Elle a, puis via l'école, via tous les services en éducation qu'on offre. T'sais, souvent, quand on lit des profils de jeunes qui ont mal tourné, comme on dit, ben c'est souvent des jeunes qui se trouvaient dans des milieux familiaux extrêmement difficiles où les parents avaient besoin, ou le parent ou la parent, la mère avait besoin d'aide. Fait que l'école, normalement, devrait être là pour apporter ce soutien-là, comme les travailleurs sociaux. Puis il y a plein d'éléments de notre société qui agissent là-dedans. Mais c'est la propriété fondamentale du genre de société dans laquelle on vit avec un filet social. C'est que chacun fait sa part de la job. Puis là, ben, à l'école, ils ont de la misère à la faire.
Bon, ben on s'en parle, mais effectivement, quand on lit ça, il n'y a rien de jojo là-dedans. Ben passe une belle soirée, Marie-Claude, et on va se reparler demain.
Merci, Michel.
Salut.